Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Proscrire les peines de prison courtes, mais assurer l'application effective de celles de plus d'un an, tout en multipliant les alternatives en milieu ouvert. Emmanuel Macron a annoncé hier une réforme profonde du système des peines. Discours séduisant, mais recul réel selon le syndicat de la magistrature, classé à gauche.
Et puis les dirigeants des deux Corées se retrouveront fin avril pour un sommet historique dans la zone démilitarisée. Pyongyang serait prêt à aborder avec Washington la question de la dénucléarisation, satisfait site de Donald Trump, davantage de prudence à Séoul, vous l'entendrez d'ailleurs.
Le commissaire européen aux finances Pierre Moscovici s'attaque à ce qu'il qualifie de planification fiscale agressive pour les entreprises. 7 pays pourraient bien être épinglés ce midi par la Commission européenne, le Benelux, Chypre, Malte et l'Irlande, ainsi que, en dehors de la zone euro, la Hongrie. À la veille de l'ouverture au public du salon de l'automobile de Genève, quelle stratégie d'alliance entre les constructeurs? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis vroom vroom encore dans la question du jour dans une quinzaine de minutes, Catherine. Mathieu Flonneau, historien des mobilités, tentera de répondre à la question suivante. Est-il encore possible de défendre la voiture en ville?
Nous devons changer ce système qui ne protège plus suffisamment le citoyen, qui mine le personnel pénitentiaire et empêche ceux qui voudraient se réinsérer de sortir de la délinquance. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a justifié hier en visite à Agen son projet de refondation des peines, ni laxiste ni dur, explique le chef de l'État qui veut rendre à la prison son sens moral et social. Traduction concrète, il veut réserver la prison aux cas les plus graves, élargir les peines en milieu ouvert. Détail avec Sarah Guibaudot.
Jusqu'à un mois d'emprisonnement ferme, 10 000 très courtes peines sont prononcées chaque année, pas souvent exécutées, mais ce ne sera tout simplement plus possible. La consommation de stupéfiants, par exemple, relèvera d'une amende. Une nouvelle agence du travail d'intérêt général devra trouver davantage de débouchés pour ces peines alternatives, des travaux non rémunérés et socialement utiles. Entre 1 et 6 mois ferme, c'est la majorité aujourd'hui des peines d'emprisonnement. À l'avenir, la règle sera d'infliger une peine à l'extérieur, placement dans une association, semi-liberté ou bracelet électronique, sauf avis contraire et motivé du juge. Cela concerne souvent des délits routiers ou des vols. « Je n'ai aucune sympathie pour les chauffards », a dit Emmanuel Macron, mais que le condamné perde aussi son emploi ne protège pas la société. Voilà pour sortir du tout carcéral. Au-delà d'un an d'emprisonnement, en revanche, la peine devra être exécutée en prison dans les meilleurs délais. Plus question d'attendre des mois ou de procéder à un aménagement après le procès.
Et pour restaurer la dignité dans nos prisons surpeuplées, Emmanuel Macron veut par ailleurs construire 7000 places supplémentaires sur le quinquennat. 7000 places et non plus 15000. La loi de programmation de la justice sera présentée début avril. Mais déjà, Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, classée à gauche, dénonce un recul de l'exécutif. Derrière un discours séduisant du chef de l'État se cacherait une philosophie de défiance vis-à-vis des aménagements de peine, selon Laurence Blisson.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les peines ne sont pas exécutées en France. Une peine, ça n'est pas que des mois prononcés, c'est un regard vers le futur et c'est déterminer des modalités d'exécution de la peine qui permettront de protéger la société, de protéger les victimes, mais aussi d'assurer l'insertion des condamnés. Or là, c'est un recul parce que les peines de plus d'un an ne seront pas aménagées, c'est un recul parce que il va fermer la possibilité de recourir à certaines modalités d'aménagement de peine, des conversions en jour amende ou en sursitige pour les peines de moins de 6 mois, et c'est un recul parce qu'il prévoit ce qu'on appelle des mandats de dépôt différés, qui serait l'idée que le tribunal n'incarcère pas immédiatement à l'issue de l'audience, mais prévoit que quelques semaines plus tard, la personne va en prison. Ça, c'est une façon de décomplexer les juridictions et on va aboutir à plus de prisons. Donc il y a un discours qui est séduisant, il faut marginaliser la prison, mais finalement les mesures qui sont retenues ne vont pas dans ce sens-là.
Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, plutôt classée à gauche. La refondation du système des peines, on y revient dans les matins à partir de 7h40 avec un plaidoyer pour la justice pénale avec l'avocat pénaliste Éric Dupont-Moretti et Guillaume Erner. L'exécutif qui s'attelle à une autre réforme, celle de la Constitution, consultation en cours à Matignon pendant une dizaine de jours avec les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, une trentaine de mesures, dont la réduction d'un quart à un tiers du nombre de parlementaires, pas plus de 3 mandats identiques dans le temps, et puis une dose de proportionnelle 10 à 25% aux législatives. Lui est venu dresser le bilan de la réforme constitutionnelle qu'il avait menée en 2008, instituant notamment la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Nicolas Sarkozy s'est rendu hier après-midi au Palais du Luxembourg à l'invitation du président du Sénat, Gérard Larcher, qui est opposé à la réforme que prépare l'exécutif. Retour sur cette brève incursion de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française avec Stéphane Robert.
Nicolas Sarkozy n'était pas là au Sénat pour s'en prendre à Emmanuel Macron et au gouvernement. C'est d'ailleurs ce qu'il a expliqué au début de son allocution. Non, il était là pour expliquer comment il a fait, lui, en 2008, et combien il est difficile de mener à bien une réforme constitutionnelle. Si l'on décide de passer par la voie parlementaire et donc par le Congrès, il est très compliqué, a-t-il dit aux sénateurs, d'obtenir la majorité des 3/5. Il faut un esprit de rassemblement et, croyez-moi, une énergie indomptable. Quoi qu'il en soit, a-t-il poursuivi, un président a besoin d'une opposition puissante. Un gouvernement n'est fort que s'il se nourrit de la force du Parlement, a expliqué Nicolas Sarkozy devant des sénateurs ravis. Et il a par là même déconseillé le recours au référendum, car il vaut mieux, a-t-il précisé, que le débat se déroule à l'Assemblée et au Sénat plutôt que dans la rue. C'est simple, commentait hier soir un sénateur qui n'est pourtant pas un admirateur de Nicolas Sarkozy. Il a été éblouissant. Alors faut-il voir là une mise en garde vis-à-vis de l'actuel président et de l'actuel gouvernement ? Peut-être. Au dire de l'intéressé, il a simplement accepté de venir faire part d'un retour d'expérience. Quoi qu'il en soit, Sarkozy a tenu à préciser qu'il était bel et bien retiré de la vie politique, que sa parole était rare et qu'elle le restera.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les dirigeants des deux Corées se retrouveront fin avril pour un sommet historique dans la zone démilitarisée.
Et Séoul l'assure, Pyongyang est prête à aborder avec Washington la question longtemps taboue de la dénucléarisation. Satisfait-il de Donald Trump, hier soir, le président des États-Unis a salué les signes d'ouverture de la Corée du Nord.
Ce serait une chose formidable pour le monde, pour la Corée du Nord et pour toute la péninsule. Mais on verra bien ce qui va se passer. Les Nord-Coréens semblent vouloir agir de manière positive. Voyons si on arrive à continuer à aller dans le même sens ou pas. J'aimerais être optimiste, mais en tout cas, je pense que personne n'est jamais allé aussi loin. Ce problème aurait dû être traité depuis longtemps. Depuis des années, par les administrations précédentes. Ça aurait dû être fait il y a longtemps, pas aujourd'hui, mais bon, c'était les cartes qu'on avait en main, alors on les a jouées. Encore une fois, on prendra un chemin pacifique, mais on est prêt aussi à prendre une toute autre direction si c'est nécessaire. Je pense en tout cas qu'on a un très bon dialogue et on a fait des progrès, ça ne fait aucun doute.
Donald Trump hier aux États-Unis, traduit par notre correspondant Grégory Phillips. Son vice-président de Donald Trump, Mike Pence, est lui sur une tonalité plus prudente. Il a réclamé hier des avancées crédibles, vérifiables et bien concrètes de Pyongyang sur la dénucléarisation. Quant au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, il s'est dit, lui, prêt à suspendre tout essai nucléaire et balistique pendant la durée des pourparlers, voire à renoncer au nucléaire à long terme si la sécurité de son régime était assurée. Entre enthousiasme et scepticisme, les réactions à Séoul avec notre correspondant Frédérico Jardias.
La nouvelle fait les titres de toute la presse sud-coréenne. Partout en première page, la même photo, celle de Kim Jong-un serrant la main des émissaires sud-coréens. Cette médiation sud-coréenne est plus qu'un succès, s'enthousiasme le quotidien de centre-gauche Han Kyole, qui estime qu'elle a permis de poser les bases de pourparlers de dénucléarisation entre États-Unis et Corée du Nord. Mais l'opposition conservatrice n'est pas convaincue. Son chef de file, Hong Jun-pyo, parle de mascarade. Il évoque l'accord de Munich, signé avec Hitler à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et il affirme que le régime est toujours revenu sur ses engagements dans le passé. Les précédents accords de dénucléarisation signés ces 30 dernières années ont en effet échoué, et il y a un énorme problème de confiance entre Pyongyang et Washington, ce qui explique le scepticisme des premières réactions américaines. La plupart des analystes à Séoul expriment cependant une satisfaction prudente, un dialogue est à présent possible, et les concessions obtenues du Nord sont jugées exceptionnelles, même si celles-ci pourraient être assorties plus tard de demandes exorbitantes, comme par exemple un retrait des troupes américaines de Corée du Sud ou une dénucléarisation des États-Unis. Séoul doit à présent convaincre Washington de la nécessité de reprendre le dialogue. Demain, les deux principaux émissaires sud-coréens partiront aux États-Unis pour transmettre un message confidentiel des Nord-Coréens à l'administration Trump. La médiation continue.
Et une démission de plus à la Maison Blanche, une victime collatérale de la guerre commerciale que Donald Trump s'apprête à livrer en surtaxant les importations d'acier et d'aluminium. Son principal conseiller économique, Gary Cohn, a démissionné hier. Il estime que des mesures protectionnistes sont dangereuses pour l'économie américaine. Par ailleurs, en Europe, de possibles mesures de rétorsion sur les jeans, les motos ou le bourbon américain. C'est aujourd'hui que la Commission doit détailler sa stratégie de riposte face aux menaces de surtaxe américaine sur les importations d'acier et d'aluminium. La Commission européenne qui va également présenter ce midi ses évaluations de la situation économique de chacun des pays de l'Union européenne. Pour la France, par exemple, le commissaire aux finances Pierre Moscovici devrait décerner une bonne note et retirer l'économie française de la catégorie des déséquilibres excessifs, signe de la confiance de Bruxelles dans les réformes en cours. Pour d'autres pays, en revanche, la séance d'évaluation de la Commission pourrait bien être plus compliquée. 7 pays pourraient être cloués au pilori, épinglé pour concurrence fiscale, Pierre Benazé.
Après la publication des révélations des Paradise Papers, l'Union européenne s'était retrouvée sous le feu roulant des critiques pour avoir totalement exclu de sa liste noire des paradis fiscaux l'ensemble des membres de l'UE. Alors que certains étaient largement pointés du doigt, ce sont évidemment les États qui décident, ils avaient écarté cette possibilité, mais la Commission européenne a décidé d'aborder la question tout de même. Le commissaire européen aux finances, Pierre Moscovici, s'attaque frontalement à ce qu'il qualifie de planification fiscale agressive pour les entreprises, des pratiques fiscales qui nuisent à l'équité, qui alourdissent les impôts des contribuables et qui empêchent une concurrence loyale. Dans l'ensemble, ces pays ont déjà été signalés, mais ils sont maintenant sur la sellette. Ce sont les trois du Benelux, trois îles, Chypre, Malte et l'Irlande, ainsi que, hors zone euro, la Hongrie. Sept pays qui font vis-à-vis des autres pays de l'UE de la concurrence fiscale pour attirer les sociétés et qui sont désormais formellement pointés du doigt.
Le président du Conseil européen, Donald Tusk, doit livrer aujourd'hui sa vision des relations commerciales entre l'Union européenne et Londres après le Brexit. Alors que les discussions sur le Brexit, justement, reprennent ce matin à la Chambre des Lords à Londres, une question, et si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'avait jamais lieu? C'est le choix de la rédaction à suivre dans le journal de 7h30. L'intersyndicale d'Air France a lancé un nouvel appel à la grève pour le 23 mars prochain, faute d'avoir obtenu des avancées en ce qui concerne leur rémunération. Les salariés et les syndicats réclament une hausse de 6% de leur salaire, ce que refuse la direction. Inacceptable pour Vincent Salle, secrétaire général de la CGT Air France.
Cette direction-là qui met en avant et qui prône un dialogue social se replie sur elle-même et refuse la main tendue des syndicats pour qu'on puisse s'entendre sur les besoins que revendiquent les salariés. On pense qu'on va être contraint de durcir le ton si la direction reste les pieds dans ses deux sabots. Il y a un mépris, c'est-à-dire qu'on considère que les efforts de productivité qui ont été demandés aux salariés, qui ont été imposés aux salariés à travers le plan Transform, le plan Perform, la direction considère que c'était normal. C'est fi de revendications des salariés et on se trouve ça tout à fait aberrant et scandaleux. On réclame ces 6%, c'est tout à fait légitime.
Vincent Salle, secrétaire général de la CGT Air France, joint par Hakim Kasmi.